Vous écoutez, on lit pour vous.
Québec ajoute des postes de résidence en médecine. Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir. Québec a annoncé, fin janvier 2026, l'ajout de 24 postes de résidence en médecine pour la prochaine rentrée scolaire, ce qui porte le total à 1008 postes. Même si le nombre de postes augmente, la province peine toutefois à pourvoir tous les postes de résidence en médecine de famille. Ce n'est pas nouveau que le gouvernement augmente davantage les postes en médecine de famille que ce qui est comblé l'année précédente. Pour la Fédération des médecins résidents du Québec, FMRQ, il est difficile de lui reprocher de souhaiter d'en combler davantage chaque année. Pour la prochaine rentrée scolaire, 554 postes seront attribués à la médecine familiale et 454 aux autres spécialités. Cette annonce découle de la table de concertation permanente sur la planification de l'effectif médical au Québec, qui est composé de nombreux acteurs, tels que Santé Québec, le ministère de la Santé, les fédérations de médecins, le Collège des médecins et la Conférence des doyens et des vice-doyens des facultés de médecine, pour ne nommer que ceux-ci. En réponse à une demande de commentaire de la presse canadienne, le président de la FMRQ, le Dr Louis-Charles Desbiens, a fait savoir que le nombre de nouveaux postes faisait consensus auprès des différents intervenants. Il faut toutefois s'assurer qu'ensuite, ces médecins résidents, à la fin de leur résidence, aient accès à des postes et des conditions de pratique intéressantes, dit-il dans une déclaration écrite. Même si le gouvernement ajoute des postes de résidence, Québec reste la province qui a le plus de difficultés à combler les places qui sont offertes en médecine de famille. Selon les données de 2025 du Service canadien de jumelage des résidents, CARMS, des 94 postes laissés vacants en médecine familiale au Canada, 69 étaient au Québec. Un scénario semblable à 2024, où 75 postes de médecine familiale n'avaient pas été pourvus au pays, dont 70 au Québec. La FMRQ est tout de même optimiste pour l'avenir. Elle explique que le nombre de postes offerts tient compte de plusieurs variables, dont le nombre de finissants au doctorat en médecine et des besoins d'effectifs médicaux dans les différentes régions du Québec. Le Dr Desbiens rappelle que l'an dernier, 484 doctorants ont choisi la médecine de famille comme spécialité de résidence, ce qui représente une hausse de près de 6% par rapport à l'année précédente. C'est donc dire que parmi la soixantaine de spécialités médicales qui existent au Québec, dont plusieurs d'entre elles sont également en pénurie de médecins, plus de la moitié choisissent la médecine de famille. Cela n'est clairement pas banal, souligne-t-il. Des impacts de la grève? La ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a parlé d'une volonté commune dans une déclaration écrite. Cette bonification de 24 postes de résidence en médecine par rapport à celle de l'année dernière est conforme à la volonté de notre gouvernement et de nos partenaires de maintenir un bon ratio de répartition des postes de résidence en médecine. Dans un communiqué, son cabinet a spécifié que la table de concertation a tenu compte des retombées de la grève en enseignement de cet automne, qui a pu affecter la diplomation des étudiants en médecine. C'est la raison pour laquelle, cette année, le nombre de postes correspond au nombre de futurs résidents, écrit le cabinet de la ministre de la Santé. La FMRQ a expliqué que le nombre de postes a été évalué en fonction du nombre prévu de finissants qui obtiendront leur diplôme à la fin de cette année académique. Évidemment, il faudra voir ce qui est prévu comme condition de pratique après la fin de leur résidence. Cet élément peut avoir un effet majeur sur l'attractivité auprès de la relève, comme la FMRQ l'a déjà fait valoir à plusieurs reprises, a soulevé le docteur Desbiens. De plus grandes cohortes en médecine. Le gouvernement du Québec a annoncé en 2022 qu'il augmentait les cohortes en médecine partout dans la province. La FMRQ affirme que cette mesure est l'un des bons coups en santé du gouvernement. Avec les hausses d'admission dès 2018, et plus encore avec celles mises en place à compter de 2022, nous commençons à compter chaque année sur un nombre de diplômés du doctorat en médecine plus près des besoins réels. Il faut rappeler que cela prend de 7 à 12 ans pour former un médecin selon la spécialité. Les hausses d'admission prennent donc du temps à faire sentir leur effet. Mais nous y arrivons, a précisé le docteur Desbiens. Les cohortes bonifiées sont attendues en 2028. Docteur Desbiens apporte toutefois un bémol. Maintenant, il faut juste éviter de tuer ses efforts en dévalorisant la pratique de la médecine par des mesures coercitives qui minent l'attractivité, comme celles qui ont été mises de l'avant en 2025 par le ministre Christian Dubé. Il dit espérer que les choses changent avec Mme Bélanger. C'était « Québec ajoute des postes de résidence en médecine ». Un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 23 janvier 2026 dans Le Devoir.
Convainc-moi que le fédéral doit s'occuper des ovnis. Un texte de Philippe Mercure, paru le 21 octobre 2025 dans la presse. Ottawa devrait s'intéresser aux phénomènes aériens non identifiés, affirme la conseillère scientifique en chef du Canada. Vraiment? Philippe Mercure en discute avec Mona Nemer, qui plaide qu'il faut surtout éviter de laisser croire aux citoyens que le gouvernement cache des choses. Entre les incessants soubresauts provoqués par Donald Trump, la crise du logement et les projets d'intérêt national à lancer, le gouvernement fédéral ne manque pas de boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pourquoi j'ai été étonné d'apprendre que la conseillère scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, recommande à Ottawa de s'occuper des ovnis. J'écris « ovni », mais la conseillère utilise plutôt l'acronyme PANI pour « phénomènes aériens non identifiés ». Son bureau a pondu un rapport en ce sens dans le cadre d'un projet au nom de code évocateur « Ciel Canada ». D'où vient cette idée? Quel en est l'objectif? Ne devrait-on pas consacrer nos ressources à des préoccupations plus terre-à-terre, littéralement? Ce sont quelques-unes des questions que j'avais pour Mme Nemer. La conseillère scientifique en chef me soumet les résultats d'un sondage mené auprès de 1008 répondants qui montre que 27% des Canadiens affirment avoir déjà vu un phénomène céleste qu'ils ne parvenaient pas à identifier. Or, à peine 10% d'entre eux ont signalé l'observation. Pourquoi? En gros, parce qu'il n'existe pas d'endroit désigné pour le faire. Ceux qui rapportent des PANI le font principalement auprès de la Gendarmerie royale du Canada, qui n'a pas nécessairement l'expertise pour leur répondre, dit Mme Lemaire. On note l'absence d'un système qui fait le suivi et qui explique aux gens ce qu'ils ont vu. Ce que ça changerait? L'argumentaire de Mme Lemaire se résume en deux mots. Transparence et confiance. Quand on ne donne pas suite aux questions des citoyens, dit-elle, ça peut donner l'impression que le gouvernement cache des choses. Il y a beaucoup de désinformations et de mauvaises informations qui circulent. On a vu énormément de théories du complot, des gens qui parlent de programmes secrets du gouvernement canadien, etc., dit Mme Lemaire. Or, dit Mme Lemaire, la confiance des citoyens envers leurs institutions est primordiale et fragile. Ce que les études montrent, c'est qu'à partir du moment où vous ne faites plus confiance aux organisations et aux instances gouvernementales sur une chose, ça affecte aussi votre confiance et votre perception à propos d'autres sujets, dit la conseillère scientifique en chef. Ceux qui ne croient pas au vaccin sont les mêmes qui croient que les gouvernements cachent des évidences sur les extraterrestres. La désinformation et le scepticisme du public par rapport à la science sont des choses qui sont assez dangereuses pour la société. Concrètement, Mona Lemaire recommande donc de centraliser les demandes liées au PANI au sein d'une même agence. On ne part pas de rien, mais c'est très fragmenté, observe Mme Lemaire. Il y a plus de 30 000 scientifiques au sein du gouvernement fédéral. Il y a des chercheurs en astrophysique. Il y a tout le service de météorologie d'Environnement Canada qui est très respecté. Nous avons une agence spatiale. Il y a de l'expertise à Transport Canada. Elle plaide que des pays comme les États-Unis, le Chili et la France ont mis en place des mécanismes pour répondre aux questions des citoyens concernant les phénomènes célestes mystérieux. Mais les ressources, les coûts. En France, le service compte 3 employés à temps complet et il y a surtout une grande communauté de chercheurs qui participent de façon bénévole, dit-elle. Alors je ne vois aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas faire la même chose ici et à très faible coût. Est-ce que c'est la chose qui urge le plus? Non, continue la conseillère scientifique. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas de logement, par rapport à la crise des sans-abri, évidemment, qu'on n'est pas du tout dans le même ordre d'importance sociétale, mais ça ne fait pas non plus appel aux mêmes intervenants ni aux mêmes ressources. Je lui fais remarquer qu'un citoyen qui envoie au gouvernement une image floue d'un truc, aperçu dans le ciel, et se fait répondre « on n'a aucune espèce d'idée de ce que vous avez bien pu voir » n'est pas nécessairement plus avancé. N'est-ce pas ce qui risque de se produire la plupart du temps? Mme Lemaire me répond qu'en France, où le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés existe depuis 1977, la plupart des observations rapportées reçoivent une explication. J'ai consulté les statistiques officielles et c'est vrai. Le tiers des observations sont déclarées inexploitables parce qu'il manque de données pour les documenter, mais une majorité, 63% de cas, reçoivent une explication contre 3,4% d'observations inexpliquées. Mona Lemaire estime aussi que l'enthousiasme généré autour de son rapport illustre à lui seul sa pertinence. Quand on a annoncé le début de cette analyse, on a reçu, mon Dieu, des centaines et des centaines de communications qui venaient de tous bords, tous côtés, lance-t-elle. Ça venait de citoyens ordinaires, de membres ou de retraités de l'armée, de la Gendarmerie royale du Canada, des chercheurs. Je ne vous mens pas, c'était assez impressionnant. La suite. Mona Lemaire, dont le rôle est de conseiller le gouvernement, mais qui ne peut lui dire quoi faire, espère qu'une agence fédérale, Transport Canada, l'Agence spatiale canadienne, prendra la balle au bon. Mais elle ne se fait pas trop d'illusions là-dessus. Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelqu'un qui va lever la main parce que j'ai rarement vu beaucoup de proactivité au sein de la fonction publique, lance-t-elle, avec un brin de cynisme. Mais bon, on ne sait jamais. il pourrait nous surprendre. Verdict. La confiance des Canadiens envers leur gouvernement est-elle ébranlée à cause des phénomènes célestes inexpliqués? Les théories du complot circulent-elles abondamment à ce sujet? Bien honnêtement, je n'en ai pas l'impression. Mais ces questions sont plus présentes aux États-Unis et on sait que ça peut finir par nous gagner. Là-bas, le Congrès américain a tenu des audiences à ce sujet en septembre 2025 et un bureau pour traiter les questions des citoyens sur les PANI a été créé en 2022. Si centraliser les demandes relatives aux observations célestes ne nécessite pas de grandes ressources, pourquoi pas? Je ne vois aucune raison de m'opposer à ce qu'on réponde de façon scientifique aux questions des citoyens. Preuve que l'idée est moins farfelue qu'elle en a l'air, la Gendarmerie royale du Canada s'est montrée en faveur dans un reportage de CTV. J'espère même qu'une agence fédérale lèvera la main pour prendre en charge le dossier et surprendra Mona Nemaire. C'était « Convainc-moi que le fédéral doit s'occuper des ovnis », un texte de Philippe Mercure, paru le 21 octobre 2025 dans La Presse.
Les prévisions économiques se sont révélées plutôt exactes en 2025. Un texte d'Alex Fontaine, paru le 29 décembre 2025 dans Le Devoir. Les prévisions économiques attirent beaucoup l'attention, et ce, même si tous les modèles sont faux, selon un expert, en prévision. Retour sur une année un peu folle où, malgré des changements de cap imprévisibles en matière commerciale, les prévisionnistes s'en sont bien sortis. Prenons les données du ministère des Finances du Canada, qui calcule régulièrement la moyenne des prévisions du secteur privé au sujet des principales variables économiques. En janvier 2025, la quinzaine de prévisionnistes sondés s'attendait à une hausse de 1,7% du produit intérieur brut, PIB, réel, durant l'année. 12 mois plus tard, les données officielles se font attendre, mais les plus récentes estimations des grandes banques penchent vers une croissance du PIB de, tenez-vous bien, 1,7%. Ce résultat cache cependant une cascade d'événements qui ont amené les économistes à revoir leurs prévisions à plusieurs reprises durant l'année. Par exemple, le 2 février 2025, au lendemain de la signature du décret annonçant l'entrée en vigueur de tarifs douaniers américains sur les produits canadiens, la Banque nationale révisait, à brûle-pourpoint, sa prévision de croissance du PIB pour 2025 de 1,4% à 0,4%. Le président américain fera ensuite marche arrière et ciblera seulement certains secteurs. En conséquence, la banque a revu à la hausse ses prévisions de croissance à plusieurs reprises pour en arriver, en novembre, à une prévision de 1,7% pour 2025. En janvier 2025, la quinzaine de prévisionnistes sondés s'attendait à une hausse de 1,7% du produit intérieur brut, PIB, réel, durant l'année. La qualité de mon sommeil s'est grandement améliorée au fur et à mesure de l'année, dit à la blague Mathieu Arsenault, chef économiste adjoint à la Banque nationale. Dès les débuts du conflit tarifaire, il fallait faire beaucoup d'hypothèses, se rappelle-t-il. On ne s'est pas caché, alors que d'autres étaient beaucoup plus hésitants à produire des prévisions. Cela dit, naviguer dans une mer d'incertitudes, c'est éprouvant, c'est décourageant parce que souvent, on a l'impression qu'on a travaillé pour rien, tant le travail est continuellement à refaire, soutient M. Arsenault. Mais c'est sûr que c'est stimulant. L'erreur est inévitable. Il faut partir du fait qu'on va se tromper et que tous les modèles sont faux, dit candidement Dalibor Stevanovic, co-titulaire de la chaire en macroéconomie et prévision de l'ESG UQAM. Si on connaissait le vrai modèle, ça serait la fin de l'histoire. Il n'y aurait aucun besoin de faire des prévisions. Égare à ceux qui crient au loup. Si je dis chaque année qu'il va y avoir une récession, à terme, je vais avoir raison. L'important, c'est la moyenne au bâton, croit M. Stevanovic. Une fois ce constat établi, il convient de se demander ce qu'on veut prévoir. Des variables économiques, PIB, inflation, etc., ou la probabilité d'un événement, comme une récession, afin d'utiliser la méthode statistique la plus appropriée pour y arriver. Et la complexité d'un modèle n'est pas forcément positivement corrélée avec la performance, enseigne M. Stevanovic à ses étudiants. Pour éviter de trop dépendre d'un modèle prévisionnel, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier à la chaire en macroéconomie et prévision. L'organisation agrège la moyenne et la médiane de dizaines de modèles différents. Il ne s'agit pas d'une science exacte, mais les enjeux peuvent être importants. Dans sa réponse à la crise financière de 2008-2009, le Fonds monétaire international, FMI, a préconisé des mesures d'assainissement budgétaire, en d'autres mots d'austérité, de façon prématurée dans les principales économies avancées, les prévisions de croissance se révélant optimistes, a conclu un rapport du Bureau indépendant d'évaluation du FMI. Des facteurs imprévisibles. Comme on l'a vu cette année avec un président américain hyperactif, nous ne sommes pas à l'abri de facteurs imprévus qui peuvent tromper les modèles. On peut modéliser la probabilité qu'une récession arrive. Mais le problème avec ça, c'est que les récessions se suivent et ne se ressemblent pas, explique Dalibor Stevanovic. Le nombre de variables à considérer pour prédire l'avenir et les impondérables qui peuvent survenir donnent des maux de tête même aux organisations les plus sérieuses. La Banque du Canada, entre autres, a modifié ses prévisions de l'inflation à plusieurs reprises durant la pandémie. Quand on n'a pas toute l'information, c'est difficile de faire de bonnes estimations, note Mathieu Arsenault. Il évoque les premiers tarifs douaniers américains, alors qu'il n'était pas clair que les produits conformes à l'accord Canada-États-Unis-Mexique en seraient exemptés. Lorsque cela a été confirmé, les prévisions ont été revues à la hausse. Mais même des facteurs généralement prévisibles peuvent changer sans préavis, prévient M. Stevanovic. Prenez juste l'exemple de quelque chose qui est normalement facile à prévoir, comme la démographie. Il suffit d'une politique gouvernementale qui restreint le nombre de nouveaux arrivants pour rendre les prévisions caduques, conclut-il. C'était « Les prévisions économiques se sont révélées plutôt exactes en 2025 », un texte d'Alex Fontaine, paru le 29 décembre 2025, dans Le Devoir.
La violence dans les écoles atteint des niveaux alarmants. Un texte de Mélanie Marquis publié le 15 décembre 2025 dans la presse. La Fédération autonome de l'enseignement a dévoilé les résultats d'une consultation auprès d'enseignants qui témoignent du niveau alarmant de violence auquel ils font face. La violence physique et psychologique que vit le personnel enseignant a atteint des niveaux alarmants, s'inquiète la Fédération autonome de l'enseignement, FAE. Le syndicat a réclamé une rencontre avec la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, une invitation aussitôt acceptée. La vice-présidente aux relations de travail de la FAE, Catherine Renaud, a dévoilé en conférence de presse à Montréal les résultats d'une consultation à laquelle ont participé près de 2 500 membres du syndicat au cours des derniers mois. La situation est urgente. Il faut agir. Nous sommes là pour enseigner aux élèves, mais on ne peut pas le faire au détriment de notre santé, a-t-elle affirmé après avoir cité quelques témoignages de membres du personnel enseignant ayant pris part à l'exercice. Des coups et des morsures infligés par un enfant du préscolaire. Du plan d'écriture d'un récit dans lequel un élève planifie le meurtre de son enseignante sans y voir de problème. De photos à caractère sexuel reçues par une enseignante. De courriels harcelants de parents. Ce n'est pas vrai que la violence va faire partie de notre job. Et de toute évidence, ce n'est pas en imposant le vouvoiement en janvier qu'on va éradiquer la violence dans nos écoles, a ironisé la représentante de la FAE. La diminution de la violence passe notamment par la prévention, ce que le personnel scolaire n'arrive plus à faire en raison de la pénurie qui plombe le réseau, a déploré le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois à son tour au micro. La prévention, c'est avoir assez de personnel sur le terrain pour prendre soin des jeunes, voir quand ça ne va pas, et intervenir avant qu'il y ait des crises, avant que ça se désorganise, et avant qu'il y ait des chaises qui revolent, a-t-il déploré. Or, ça n'existe plus, parce qu'il n'y a pas assez de monde sur le terrain pour en faire, a-t-il lâché. Sa collègue libérale, Madoua Nika Kadé, a aussi pointé du doigt le manque de ressources. Et elle ne s'est pas privée de blâmer les coupures administrées par le gouvernement de la CAQ et l'instabilité budgétaire vécue par le réseau ces derniers mois. Mais surtout, l'élu a insisté sur le fait qu'il était impensable d'imaginer que des profs, partout au Québec, se lèvent le matin et qu'ils aient peur de ce qu'ils pourraient subir de la part d'enfants parce qu'on leur dit que c'est normal d'en subir en milieu scolaire. Sonia Lebel doit s'asseoir avec la FAE pour discuter du problème. A-t-on unanimement demandé. Réponse favorable. La réponse de son cabinet n'a pas tardé. La ministre est ouverte à rencontrer la FAE pour échanger sur les données présentées. Bien que le ministère de l'Éducation du Québec agisse déjà en prévention, nous serons toujours à l'écoute du personnel scolaire pour améliorer nos actions. Car on ne peut évidemment pas tolérer la violence et l'intimidation dans nos écoles, a-t-on ajouté. Il y a environ un mois, la Fédération des employés et employées de services publics a dévoilé des chiffres préoccupants sur la violence subie par le personnel de soutien scolaire dans les établissements scolaires du Québec. Le Parti québécois a été invité à l'annonce, selon la FAE. Aucun représentant de la formation n'y a cependant pris part. C'était « La violence dans les écoles atteint des niveaux alarmants », un texte de Mélanie Marquis, publié le 15 décembre 2025 dans la presse.